les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Le féminisme militant de la politologue Françoise Vergès est décolonial. Comment entendre ce féminisme-là ? Présentant son ouvrage paru en 2019, dont le titre est précisément « Un féminisme décolonial », Françoise Vergès disait « Ce que j'appelle féminisme décolonial, c'est un féminisme qui, tout en reconnaissant qu'il y a une domination masculine, ne se focalise pas sur la question de l'égalité de genre. » Elle ajoutait également « En faisant sienne la fiction selon laquelle le colonialisme a pris fin en 1962, le féminisme s'est leurré sur l'existence d'un vaste territoire ultramarin issu de la période esclavagiste et post-esclavagiste, comme la présence en France de femmes racisées. Complice alors des nouvelles formes du capitalisme et de l'impérialisme, il demeure silencieux sur les nouvelles formes de colonialité et de racisme d'État dans les Outre-mer et en France. » En 2018, sur France Culture, dans le quatrième d'une série de 5 entretiens d'à voix nue, Françoise Vergès disait ce que devait à son origine familiale réunionnaise ses propres engagements. Elle revenait aussi sur un moment de l'histoire de la Réunion qui était au centre de son livre précédent « Le ventre des femmes, capitalisme, racialisation, féminisme ». Dans les années 70, des avortements et stérilisations pratiqués à leur insu sur des centaines de femmes réunionnaises. Pour mieux comprendre le sens d'un féminisme décolonial, à voix nue, Françoise Vergès, quatrième d'une série de 5 entretiens, diffusée la première fois le 1er mars 2018 sur France Culture.
À voix nue, toute cette semaine, de lundi à vendredi, Nejma Bouakra rencontre Françoise Vergès. Ce soir, autant en emporte les femmes.
Silence, récit raturé, oubli volontaire, il faut toute la pugnacité et la persévérance d'une chercheuse de votre acabit, Françoise Vergès, pour que des vérités remontent à la surface et redéfinissent les conditions d'existence des femmes des territoires dits outre-mer, mais aussi, en rebond, des femmes vivant en France. Politologue, historienne, titulaire de la chaire Global South à la Fondation Maison des Sciences de l'Homme, vos enquêtes sont transdisciplinaires et retendent le métier à tisser des histoires interrompues, remettre sur l'ouvrage le métier afin qu'une histoire commune puisse se partager. Bonsoir, Françoise Vergès. Alors, votre grand-mère est vietnamienne, je crois, c'est cela ?
Oui, la mère de mon père est vietnamienne, oui, elle était de Hue, de la ville de Hue.
Vous êtes née dans un monde où les hommes occupent l'espace public, Françoise Vergès. Sont aux commandes, à La Réunion, mais aussi en métropole. Votre grand-père, Raymond, est le premier député réunionnais à siéger à l'Assemblée nationale constituante à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Votre famille est une institution, on peut dire, un peu. À La Réunion, votre père, Paul Vergès, est l'un des édiles de l'île, sénateur, député français, mais aussi parlementaire européen. Il était le plus connu des hommes politiques réunionnais et a détenu, fut un temps, le record de longévité parmi les élus. 61 ans de vie politique. Un de ses fils, je crois, prendra le relais politique également. Que reste-t-il comme place politique du côté des femmes ? Votre mère était féministe, je crois.
Oui, ma mère était féministe. Ma mère a participé aux élections. Elle a été élue. Elle a été une élue au conseil municipal. Si vous voulez, c'est aussi la construction, évidemment, sociale. Hein. Je sais qu'il y a, par exemple, sur un site, sur l'Internet, il y a une espèce d'arbre généalogique. J'ai pas de mère. Hein. Il n'y a que des hommes. Hein. Apparemment, je suis née de la cuisse de Jupiter. Donc, cet effacement des femmes, pour moi, est absolument insupportable. Mais vraiment insupportable. D'une part, par exemple, pour moi, la mère de mon père a énormément compté qu'elle soit vietnamienne, que lorsque mon grand-père l'épouse, il y a toute une protestation de la société coloniale à l'époque, parce qu'il vivait dans ce qu'on appelle, dans ce qui est le nord-est de la Thaïlande aujourd'hui, qui était le royaume de Siam, ou Bonrat Chathani, et il épouse donc cette femme, et il reconnaît les deux enfants, Jacques et Paul, qui sont, je l'ai retrouvé dans les archives coloniales, présentés comme des bâtards. Elle est présentée comme une Nyakwe, qui était cet adjectif insultant pour les femmes vietnamiennes. Donc pour moi, il y a aussi quelque chose qui s'inscrit là dans mon récit, pour moi, extrêmement important, de la manière dont on traite une femme, parce qu'elle est de couleur, parce qu'elle est asiatique, parce qu'elle est vietnamienne, et que de toute façon, donc, elle ne peut pas entrer... elle peut être la maîtresse d'un homme, mais elle ne peut certainement pas être son épouse, et les enfants ne doivent pas être connus. Mon grand-père était un colonisé, puisqu'il était un réunionnais, et que la Réunion était une colonie, mais ma grand-mère était non seulement colonisée, elle était femme, elle était asiatique, c'était encore moins. Donc pour moi... c'est extrêmement important. Ma mère aussi est féministe. Puis, comme je vous l'ai dit, mon père n'a jamais traité ses filles de manière différente. Il n'était même pas question. Et nous étions aussi responsables. Enfin, il n'y a pas eu de préférence pour les garçons. Il n'y avait rien du tout. Donc, je vois bien que je grandis dans une société machiste et sexiste. Mais je grandis avec un encouragement chez moi à ne pas obéir à ces injonctions.
Votre mère est très active d'ailleurs sur les questions de violence faites aux femmes, sur les questions qui portent autour de la famille à La Réunion.
Oui, ma mère était aussi journaliste dans le quotidien communiste et elle faisait énormément d'enquêtes auprès des femmes qui étaient ouvrières agricoles, qui étaient domestiques, lavandières. Et donc moi, je l'accompagnais ou je lisais ces choses. Donc j'ai eu aussi... très tôt conscience de ce qui se passait pour les femmes, des doubles, triples oppressions, comme on dit.
Vous nous parlez aussi de la violence domestique.
Et de la violence domestique. Et à la fois, si vous voulez, il y avait une compréhension que les hommes réunionnais étaient opprimés et qu'il y avait aussi une violence contre eux, mais qu'il y avait aussi une violence qu'ils exerçaient sur les femmes. Donc c'était assez tôt de comprendre tous ces niveaux d'oppression. Donc oui, ma mère parlait de ça. Il y avait aussi la question du viol, les viols des femmes domestiques, hein, les femmes qui travaillaient dans les familles. Tout ça était connu. Donc c'est, oui, la conscience du viol comme arme de, presque on pourrait dire, de discipline brutale, quoi. C'est-à-dire de dire à une femme, ben tu vas perdre ton travail. Hein. Donc voilà, d'utiliser la menace pour obtenir... pour pouvoir violer ou harceler sexuellement.
C'est une question que vous retrouverez plus tard, la question des féminicides, la question des viols de guerre.
Oui, pour moi, ce sont des questions absolument fondamentales, de la violence qui est faite aux femmes et comment les guerres pèsent profondément sur les personnes les plus vulnérables de la société, les enfants, les personnes âgées, les femmes. Et comment les violences qui s'exercent contre les femmes sont 3,5 sur 4 des violences sexuelles. La guerre et le viol font couple.
Vous observez à La Réunion une chose qui vous interroge, c'est le ratio des hommes et des femmes. C'est-à-dire que vous remarquez qu'en 1848, 60% des personnes affranchies sont des hommes et 30% des femmes.
Oui, c'est une chose très particulière à l'esclavagisme français, si l'on le compare à l'esclavagisme aux États-Unis, où les colons français ne vont pas du tout choisir de reproduction locale, si je peux me permettre cette expression, de la main-d'œuvre servile. Ils vont choisir l'importation constante. Donc on a, de toute façon, déjà dans la traite, c'est, on le dit, c'est 2/3 d'hommes, 1/3 de femmes, en général. Et à l'intérieur, dans les colonies françaises, ce ratio est parfois encore plus déséquilibré. Parce que d'une part, les propriétaires d'esclaves ne veulent pas de femmes, ils veulent des hommes jeunes, entre 14 et 26 ans, c'est vraiment là ce qu'on cherche, c'est-à-dire la force, au moment de la plus grande force d'un homme. Et ils ne sont pas intéressés parce que les esclavagés, qui vieillissent très rapidement, parce que le travail est absolument terrible, ils sont sous-nourris, ils sont brutalisés, le propriétaire ne veut pas avoir de bouche à nourrir qui serait inutile dans sa logique. Et les esclavagistes français, une femme enceinte, se disent on ne pourra pas la faire travailler jusqu'au bout complètement, donc au bout de quelques semaines, il faudra quand même qu'elle arrête de travailler. Et ensuite, l'enfant ne peut pas travailler, on ne peut pas mettre un nourrisson, un bébé, donc il faudra attendre que ce bébé ait 5-6 ans. Donc c'est tant d'années perdues. Mais ce sont des réflexions que vous retrouvez dans les archives, hein, que je résume ainsi. Donc vous avez des ratios absolument déséquilibrés, et c'est pour ça que pour moi, l'île de La Réunion, mais à Martinique et en Guadeloupe, c'est à peu près la même chose, je ne vois pas comment on peut parler. C'est que la question de la violence contre les femmes, la question de la manière dont on traite les femmes, quel est le rapport avec cette histoire? Vous aviez des plantations à La Réunion où je vous donne un ratio, parce que je ne vous donne pas un chiffre exact, je n'ai pas en tête, mais vous pouviez avoir, sur 100 esclaves, vous pouviez avoir 80 hommes et 20 femmes. Quelle était la vie de ces femmes? Quelle était la vie de ces femmes? Et puis, quelle société vous construisez dans une société d'hommes, avec quelques hommes libres, blancs, qui écrasent une majorité d'hommes noirs? Donc, quelle relation sociale vous instituez, relation entre les sexes, enfin, je trouve que, si vous voulez, il faut qu'on y pense avant de parler de « Ah, mais oui, mais les Réunionnais, les hommes réunionnais sont brutaux, cruels, etc. » Certes, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est que cette société? Parce que l'équilibre entre les sexes, l'équilibre démographique, il est obtenu à l'île de la Réunion dans les années 1920, très tardivement, très très tardivement. Il y a une telle mortalité aussi infantile dans les années 40 que même les Blancs sont inquiets en se disant « mais on ne va plus avoir personne, hein, il n'y aura plus de main-d'œuvre ». Donc on est dans des sociétés extrêmement malmenées, très très malmenées. Vraiment, je me souviens quand j'étais avec ma mère et qu'elle a interrogé des femmes, les femmes donnaient leur nombre d'enfants, elles disaient 12 enfants, 8 vivants. C'est-à-dire qu'elles comptaient tous les enfants qu'elles avaient eus, mais elles vous disaient par cela combien étaient morts. Et c'était dans les années 60, 70. Donc on est vraiment dans des sociétés profondément malmenées, profondément brutalisées.
Lorsque vous revenez des États-Unis et que vous avez besoin, comme vous l'avez fait régulièrement, de revenir à La Réunion, de revenir à votre propre archive, comme vous dites, pour revenir à une recherche qui ne soit pas idéale, qui soit assez concrète. Là, vous observez des recherches médicales, vous suivez des procès, vous allez dans les tribunaux et vous observez surtout le travail des psychiatres. Et là, vous vous dites, ils passent à côté de la société réunionnaise.
Ce qui me frappait, bon, parce que ce qui m'intéressait, c'était donc les procès de crimes. C'était ça qui m'intéressait. Et donc, il y a des expertises psychiatriques. Et ces gens ne parlaient pas créole. Déjà, c'était tous des hommes blancs. Pardon, qui ne parlaient pas créole. Alors déjà, je me demandais, mais comment ils avaient pu, quelle conversation ils avaient pu avoir avec les inculpés, qui étaient tous des créoles, qui étaient créolophones. Donc déjà, je me demandais, mais qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre? Déjà, et plaquant des histoires d'Oedipe mal pensées, etc., évidemment. Et puis alors beaucoup aussi cette idée que la mère réunionnaise est toute puissante et donc du coup émascule son fils qui après va assassiner papa. Écoutez, pour moi c'était vraiment de la psychologie de bazar, quoi.
La matrifocalité tout à coup, oui, à La Réunion.
C'était vraiment un truc de bazar, quoi. C'était... vraiment pas du tout chercher à comprendre ce qui se passait. Et aussi la force, aussi, comment dire, le pouvoir du psychiatre. Le pouvoir du psychiatre. Alors on avait de toute façon, si vous le dansez de tribunaux, c'était tous des hommes blancs français, les juges, le procureur, les psychiatres, tout ça. Et puis vous aviez un homme, ou une femme d'ailleurs, parfois il y avait des femmes, et qui étaient là, coupables donc de crimes de sang, comme on dit, et qui étaient étrangers à leurs propres pensées. C'était comme un théâtre dont ils étaient, ou il ou elle était totalement exclu, et qui recevait ensuite une sanction, une punition qui était toujours extrêmement sévère. Les tribunaux sont extrêmement sévères dans les Outre-mer jusqu'à aujourd'hui. Hein, c'est même l'Observatoire de la magistrature qui vous dit ça, quoi. Donc, qui vous dit que pour des crimes similaires, les décisions de justice sont 10 fois plus sévères dans les Outre-mer qu'en France.
Aujourd'hui?
Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui encore, oui. Ce sont des rapports de l'Observatoire de la magistrature d'il y a 2-3 ans.
Vous découvrez donc un discours finalement assez abstrait et puis avec très peu d'empathie, c'est ça?
Très peu d'empathie. Il y avait eu aussi des révoltes de jeunes au Chaudron et ailleurs à plusieurs reprises. Et alors, ils avaient volé dans des magasins. Et alors, les procureurs parlaient d'eux en disant des barbares, des sauvages, les parents qui ne savent pas les tenir. Enfin, c'était constamment, le discours ne changeait pas. On était au XXe siècle, c'était le discours du XIXe qui était celui du XVIIIe. C'est-à-dire, il y a nous qui sommes les civilisés et puis ces gens-là sont des barbares.
Oui,
mais il y avait aussi, pour moi, le rôle de la psychiatrie était très important parce que le rôle de la psychiatrie permettait de parler de manière raciste, mais en utilisant le vocabulaire culturel ou psychologique. Vous voyez, donc, c'était pas de dire ces gens-là sont biologiquement différents, parce que ça se dit plus, même si ça se pense, mais ça se dit plus, mais de pouvoir dire que culturellement ils étaient différents. Irrémédiablement différents, donc irrémédiablement arriérés.
Mais finalement, la départementalisation, de toute façon, est arrivée très tard, puisqu'elle est arrivée en 1946. Mais ses effets effectifs, c'est quand ?
Les effets, ce qui est présenté comme des progrès, ont été d'une part sous la poussée de luttes locales, parce qu'il n'y avait pas assez d'écoles, pas assez d'hôpitaux, pas assez de cliniques. Enfin, c'était absolument scandaleux, quoi. Moi, quand je grandis, il y a un lycée de filles, et puis un lycée de garçons, parce qu'il y avait encore... Parce que, en plus, les lois arrivent plus tard là-bas, c'est-à-dire les lois sur la mixité sont arrivées plus tard, parce qu'apparemment, les garçons et les filles là-bas, on ne pouvait pas les mélanger trop tôt. Enfin, peu importe. Donc, il y a des lois sociales qui sont quand même, qui s'améliorent, ou les allocations familiales, mais ça, c'est sous la poussée des luttes. Mais si vous voulez, par exemple, le salaire minimum ne sera pas égal à celui d'en France jusqu'à la fin des années 90, 1990, la fin du XXe siècle, et les allocations familiales non plus, si vous voulez. Il y a toute une série de choses qui, même quand les lois sont prises en France, il y a des décrets spéciaux pour qu'il n'y ait pas une totale égalité, surtout dès qu'il s'agit de choses financières. Il y a ça. Et ensuite, la modernisation du style, les autoroutes, les centres commerciaux, elle arrive parce qu'il y a le choix aussi de la société de consommation plutôt que le choix d'un développement. Donc, on impose, si vous voulez, une économie de consommation dans laquelle les grandes entreprises du bâtiment français, de BTP français ou de distribution se retrouvent. Donc, on a les mêmes grandes enseignes où les immeubles sont construits aussi. Vous aviez d'ailleurs dans les années 60 des scandales. Il y avait eu un sanatorium qui avait été construit à l'île de la Réunion, né par un architecte en France, parce qu'évidemment, on prenait tout de venir dans la France. Et comme il n'avait pas compris qu'on était dans l'hémisphère sud, la terrasse où on mettait les tuberculeux se retrouvait à l'ombre, si vous voulez. Et puis alors, donc, quand on les mettait pour qu'ils prennent un peu le soleil, ben, ils se retrouvaient à l'ombre, les tuberculeux. Donc, il y avait des histoires comme ça, dont on riait, mais qui n'étaient quand même pas très risibles, quoi. Beaucoup de choses comme ça qui continuent, hein. Il y a une route qui se construit à La Réunion, qui est la route la plus chère du monde. Je crois que c'est 130 millions le kilomètre. Quelque chose comme ça, c'est absurde. Je veux dire, pendant ce temps-là, quand même, il y a des grandes compagnies du BTP français qui se font des fortunes. Vous voyez, donc, ce sont des sociétés de l'absurde, un peu, sur le plan économique.
Vous revenez régulièrement à La Réunion, on l'aura compris, dans les années 80, 90, et puis là, dernièrement, avec ce livre important, Le ventre des femmes, que vous publiez en 2017, et là, ce qui est important... c'est que vous parlez encore une fois du traitement différencié eh bien, des femmes réunionnaises et des femmes françaises. Tout démarre par un scandale sanitaire.
Oui, c'était en juin 1970, un médecin généraliste est appelé aux cheveux d'une jeune fille, elle a 17 ans. Il la trouve, elle baigne dans son sang, il comprend que c'est le résultat d'un avortement mal fait, mal accompli. Il appelle la gendarmerie, puisque l'avortement, rappelons-le, est encore un crime. Il ne cesse d'être un crime qu'en 1975, avec la loi Veil. Et donc, il appelle la gendarmerie, qui se trouve un peu obligée de faire une enquête. Et cette enquête va confirmer, donc il est confié à un juge, un petit juge français, elle va confirmer ce qui était apparu dans les journaux depuis 2 ans, qui disait qu'il y avait une clinique sur l'île qui pratiquait chaque année plusieurs milliers d'avortements sans le consentement des femmes. Et c'était, on le voyait, mais évidemment, aucune confirmation, et la préfecture refusait que des enquêtes soient menées, tout était refusé. Là, comme c'est un médecin qui n'a rien à voir avec l'opposition communiste ou quoi que ce soit, c'est le président de la Croix-Rouge locale, c'est un grand catholique, un monsieur très sérieux, un monsieur très respectable, la préfecture ne peut pas interdire l'enquête. Donc l'enquête va révéler que c'est vrai, qu'entre 6 000 à 8 000 avortements ont lieu chaque année. Chaque année, dans cette clinique, que ce sont des avortements forcés, ce qui veut dire que quand une femme enceinte va voir son médecin, ou l'assistante sociale, ou elle va au centre de protection maternelle infantile ou de planning familial, on l'envoie dans cette clinique, où on lui dit que vous, madame, vous devez subir une petite opération d'appendicite ou je sais pas quoi, et vous devez avoir une anesthésie générale. On l'endort, elle se réveille le matin, elle a été avortée et stérilisée. Et donc, ces femmes, donc, des témoignages sont recueillis, Et ça fait absolument un énorme scandale. Ça fait un tel scandale que les journaux nationaux, Le Monde, L'Express, Le Nouvel Observateur, Le Point, enfin, et les journaux aussi des mouvements d'extrême-gauche en France en parlent. Mais c'est en première page des journaux. Ça fait quand même un peu un scandale national. Surtout qu'en France, des médecins sont envoyés en prison parce qu'ils ont aidé des femmes à avorter, mais des femmes qui le voulaient cette fois-ci. Et des femmes aussi sont poursuivies parce qu'elles ont avorté. Donc on est dans une situation où l'État français a deux politiques, une politique ici pour les femmes françaises et puis une politique là-bas, surtout pour les femmes réunionnaises, ça s'est moins passé en Martinique et en Guadeloupe, cette politique d'avortement forcé.
Deux contrôles différents sur le corps des femmes, en fonction des territoires.
Voilà, en fonction des... La natalité est extrêmement encouragée en France, mais au point aussi où, comme je le dis, si vous voulez, il y a l'aspect évidemment négatif de répression sur la contraception et l'avortement, mais aussi un effet, on pourrait dire, positif, où les femmes ont des crèches, où il y a les congés maternité. Enfin, quand même, on aide les... Et l'équivalent n'est pas fait non plus à La Réunion. C'est-à-dire que la femme, on lui interdit d'avoir des enfants, et même, il n'y a pas assez de crèches, il n'y a pas les allocations familiales, il n'y a pas les congés maternité pleinement, vous voyez. Donc, on est vraiment dans deux politiques de l'État.
Une pilule en France, à l'époque, où en sommes-nous de la pilule?
Alors, la pilule, la loi Nevers l'a autorisée en 67, mais ça mettra 10 ans de décret pour qu'elle soit vraiment appliquée, c'est-à-dire que vous pouvez aller, en tant que femme, aller dans une pharmacie en France et demander la pilule. À La Réunion, elle est distribuée gratuitement. Le stérilet est mis à des filles mineures sans consentement parental, sur juste décision de l'assistante sociale ou du médecin. Il y a aussi le dépôt Provera, qui était une piqûre qu'on infligeait aux femmes. C'était une piqûre qui était utilisée pour les juments et les vaches, pour faire qu'elles ne soient pas fertiles pendant 3 mois. Et là, on le donne à ces femmes. Le dépôt Provera, qui était aussi utilisé à Porto Rico pour les femmes noires américaines, et que très rapidement, des médecins ont pointé des effets secondaires extrêmement terribles, des dépressions, des soupçons de cancer, prise de poids ou perte de poids. Enfin, bref, une liste énorme d'effets secondaires terribles, mais ça sera utilisé et c'est encore utilisé.
Mais ce que vous nous dites là, Françoise Vergès, c'est qu'il ne s'agit pas d'action isolée d'un médecin ou d'un autre. Le planning familial est au courant.
Voilà, le planning familial. Le planning familial distribue aux femmes enceintes des petites cartes où a été notée, par exemple, d'autres adresses, d'autres centres, et l'adresse de cette clinique.
Et cette clinique,
de cette clinique qui était une clinique d'abord orthopédique, mais qui avait une petite aile là-dedans. Et de toute façon, c'était doublé aussi d'un autre scandale, c'est-à-dire de détournement d'argent, puisque cette clinique, qui avait donc, je sais pas, une dizaine de lits, déclarait 80 occupations, et en fait, c'était les avortements. Donc, ces gens se sont fait des fortunes, mais de réelles fortunes sur ces avortements forcés, détournement de l'argent de la Sécurité sociale. Puisque les patientes étaient beaucoup trop pauvres pour payer, donc c'était la Sécurité sociale qui payait ces... Et alors évidemment, c'était pas un avortement qui était déclaré, puisque c'était un crime et que c'était interdit, donc les médecins déclaraient d'autres opérations pour lesquelles ils se retrouvaient remboursés. Et donc ce sont des centaines de millions de francs de l'époque qui ont été détournés de la Sécurité sociale. Donc il y avait avortement forcé, stérilisation forcée, contraception forcée, pratiquement, et détournement d'argent public.
Donc cela se passe à La Réunion dans un certain silence, puisque différents professionnels, des professions sanitaires, on va dire, participent à ça. Et par contre, en France, c'est publié, mais pourtant c'est assez relativisé. On n'en entend pas tant que ça parler. C'est publié dans la presse, mais les mouvements féministes ne s'en emparent pas.
Oui, les mouvements féministes qui s'en emparent pas. À La Réunion, les journaux, on publie des choses tous les jours. Il y a quand même 30 femmes qui se porteront témoins.
Hein, mais 30 femmes, si vous nous dites que 6 000 à 8 000...
Oui, mais quand même, c'est à l'île de La Réunion, ces femmes sont pauvres, sont créolophones, elles osent entrer au tribunal pour porter plainte. Je trouve, pour moi, elles sont formidables de courage. Donc il y a un scandale à La Réunion, mais on très rapidement, les médecins disent « Bon, nous, on a été couverts par la préfecture, hein, chaque fois on en parlait, on nous a jamais dit d'arrêter. » Et on sent, si vous voulez, l'État couvre. C'est l'État à La Réunion, la préfecture va couvrir ces médecins. Et aucun ne sera puni. Aucun des médecins français ne sera puni. Le seul qui est puni, il a été d'origine marocaine, alors évidemment. Mais tous les autres, absolument. Ni pour les avortements forcés, ni pour le détournement d'argent public. Rien. Donc ça, c'est vraiment la... Clairement, on est en 71, on est donc bien après 68, bien après des moments de décolonisation. la justice est absolument du côté du pouvoir blanc. En France, effectivement, c'est publié, mais si vous voulez, ce que je souligne, c'est que 71, c'est aussi les grands moments, les débuts de grands moments de mobilisation pour l'avortement et la contraception libre et gratuite. Février, c'est le procès. 2 mois plus tard, c'est la publication du manifeste des 340 femmes qui déclarent publiquement avoir avorté, alors que c'est un crime. Donc elles se déclarent publiquement qu'elles sont criminelles aux yeux de la loi. Et il n'y a aucun lien qui est fait. Et ce manifeste est publié dans le même journal qui avait publié plusieurs articles sur le Nouvel Observateur, qui avait publié plusieurs articles. Des journaux que lisaient les femmes féministes, puisque c'était les journaux qui publiaient leurs textes, qui étaient des journaux qui leur étaient favorables, comme Le Monde, Le Nouvel Obs, Politis aussi à l'époque, enfin plusieurs journaux. Et donc je fais remarquer à quel point il y a un aveuglement, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun... Genre c'était dans les journaux, ça ne s'est pas passé il y a 25 000 ans, ça s'est passé il y a 2 mois, les faits sont connus... C'est pas compliqué, les journalistes qui sont allés faire des enquêtes sont des journalistes qui publient des textes féministes, qui les interviewent, rien. Il n'y aura absolument rien. Donc effectivement, je me suis attachée à comprendre pourquoi le mouvement des femmes en France n'avait ressenti aucune empathie pour les femmes réunionnaises.
Est-ce que vous avez trouvé des réponses ?
Bon, déjà, j'ai trouvé des réponses à pourquoi les médecins s'étaient sentis tout à fait légitimes. Il n'y avait pas... Évidemment, il n'y avait aucune raison qu'ils se sentent coupables ou responsables. Ils étaient totalement couverts par l'État. L'État avait décidé qu'il y avait trop d'enfants à La Réunion et de toute façon dans les autres outre-mer et qu'il fallait mettre fin à ça. Donc il y avait vraiment un encouragement. Donc qu'ils se soient sentis encouragés, j'ai retrouvé clairement pourquoi. Sur la question de pourquoi le MLF, je pense que le MLF ou les mouvements des femmes, parce que le MLF, rappelons-le, c'est des groupes de femmes. Les mouvements féministes en France ont toujours été liés aussi à des mouvements politiques plus larges. L'anti-esclavagisme a été très propice au féminisme. Olympe de Gouges, qui était une grande féministe, était anti-esclavagiste, était contre la traite. C'est dans l'analogie que ces femmes font avec les esclaves qu'elles peuvent penser aussi leur privation de liberté. Un esclave appartient à son propriétaire, nous appartenons à nos pères ou à nos maris. Nous n'avons donc pas de liberté. Donc elles font ces analogies qu'on retrouve beaucoup dans les textes du XVIIIe siècle, hein, chez Mary Wollstonecraft, ou Olympe de Gouges, ou après. Et après, c'est oublié. La question de la femme esclave est totalement oubliée, si vous voulez. L'analogie, elle est faite, mais qu'est-ce que ça signifie d'être une femme esclave? Et en quoi la femme esclave, comment la femme esclave qui est noire, obligatoirement, construit la femme blanche, en opposé, n'est pas du tout abordée. Donc déjà, un premier effacement. Alors que, comme je le dis très souvent, les femmes n'ont pas de droits, les femmes françaises n'ont pas de droits. Vraiment, elles commencent à avoir des droits au XXe siècle. Les droits civiques, hein, les droits. Et même très tardivement, le droit d'avoir un chèque ou le droit de pouvoir voyager, on est dans les années 70. Le droit qui, pour en général, pour les féministes, est important, c'est le droit de vote, qui fait symbole. 45 pour les femmes françaises. Mais je souligne que les femmes françaises, les femmes blanches, avaient un droit, dès le XVIe siècle, c'était celui de posséder des êtres humains. Il y a eu des femmes propriétaires d'esclaves. Elles n'avaient pas de droit civique, mais elles avaient celui-là, parce qu'elles étaient blanches. De leur privilège que leur a donné cette couleur, qui n'est pas une couleur de peau, hein, au sens littéral du terme, qui est une couleur sociale. Donc, si on ne fait pas cette histoire, le féminisme reste aveugle au contexte dans lequel il émerge. Le deuxième temps, on peut dire, de radicalisation, ça a été la décolonisation. Beaucoup de femmes féministes du mouvement des années 70, certaines avaient été les militantes soutenant les Algériens. Une Gisèle Halimi a été une avocate des nationalistes algériens. Simone de Beauvoir a soutenu le mouvement d'indépendance. Bon, je donne les noms de plus connus, mais il y en a beaucoup d'autres. Et de nouveau, ce qu'a été la décolonisation et ce que la question coloniale soulevée comme question de la France est effacée dans les quelques années. La guerre d'Algérie se termine en 62, le mouvement des femmes commence à émerger en 66, et l'efface déjà cette... Donc il y a une série d'effacements des matrices politiques qui contribuent à des renouvellements de questions féministes. Et pour ce qui s'agit donc des femmes d'outre-mer, je pense que pour le mouvement des femmes, l'idée que l'empire colonial s'est terminé en 62, elles l'ont cru, les féministes l'ont cru.
Et pourtant, du fait du Bumidum, un certain nombre de femmes des Antilles viennent et viennent travailler dans des petits métiers. Par le regroupement familial, des femmes algériennes, par exemple, aussi viennent et occupent des métiers de service. Enfin, la question des femmes issues des colonies ou de l'esclavage, elle est là, elle est présente sur le territoire national.
Elle est présente, mais si elle est abordée dans les textes, elle va être abordée comme quelque chose qui a à voir avec la migration et non pas à voir avec l'histoire du féminisme français. Comment ça interroge le féminisme français, non ? C'est pas que dans les années 70, les groupes du MLF sont totalement aveugles à ce qui se passe comme racisme, mais le racisme, c'est d'autres. Dans le mouvement féministe, il n'y a pas de question à se poser. Il y a des gens qui sont racistes en France, mais le féminisme, lui, il est innocent. Il a toujours été du côté d'idées de progrès.
Puis bon, j'imagine que dans le mouvement féministe, l'idée aussi, c'est de recréer une nouvelle autonomie, une nouvelle force vive, donc on ne peut pas l'entacher, finalement, d'une question.
Voilà, le féminisme, il est pur. Donc, le mouvement féministe, la plupart des groupes qui constituent, va rester aveugle et sourd à la question de sa propre généalogie, de sa propre histoire. Son histoire, le récit féministe, se construit en rapport avec la domination masculine blanche. Donc, elles n'ont pas les droits, on va se battre pour les droits, et puis c'est la longue marche vers les droits. Et l'histoire coloniale et raciale disparaît complètement de la construction de la société française dans le récit féministe.
Merci Françoise Vergès.
Merci.
C'était le quatrième d'une série de 5 entretiens d'Avoix Nues avec Françoise Vergès au micro de Nejma Bouakra. Réalisation Nathalie Salle, prise de son Hélène Langlois. Première diffusion le 1er mars 2018 sur France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.